Et l'heure d'un nouveau journal avec Jérôme Chapuis. Bonjour Jérôme.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Et il n'y aura pas d'arrêt total du glyphosate en France d'ici 3 ans.
Le ministre de l'Agriculture l'a indiqué hier sur RTL, 20% des exploitants ne parviennent pas à s'en passer. Dans l'actualité, le nombre d'actes antisémites en hausse de 74% l'an dernier. Et puis le football, Paris au pied du mur, 8e de finale aller ce soir face à Manchester United en Ligue des Champions.
Dans 10 minutes, le surf de l'info. Bonjour Cyprien.
Bonjour à tous.
Et vous surfez ce matin avec le vote blanc.
Oh voilà une idée nouvelle.
Tiens. D'ici une demi-heure, deux météos, pardon, d'ici 7h Marina.
À Chantilly dans l'Oise, la grisaille matinale va se dissiper. L'après-midi sera agréable avec une température de 9 degrés.
RTL Matin.
C'est une déclaration qui a semé le trouble chez les défenseurs de l'environnement hier matin.
Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, a nuancé la promesse d'Emmanuel Macron sur la sortie totale du glyphosate d'ici 2022.
Dans 3 ans en France, 80% du glyphosate sera terminé. Mais il va peut-être rester 20% pour lesquels nous n'avons pas de solution.
Pas de solution, le gouvernement est-il en train de rétro-pédaler? Le glyphosate soupçonné d'être cancérigène est-il vraiment indispensable pour les agriculteurs? Certains exploitants ne parviennent pas, effectivement, à se passer de l'herbicide. Vous en avez rencontré un dans la région de Nancy, Dimitri Ramelot. Une utilisation à petite dose qu'il justifie par des arguments écologiques, c'est bien ça ?
Oui, quand il s'est installé il y a 3 ans, Julien Robert a connu une première moisson catastrophique. Fini le labour traditionnel, place à l'agriculture de conservation des sols et au glyphosate.
Je ne travaille plus mes sols et avant de semer, j'utilise donc 1 litre de glyphosate à l'hectare et par an pour nettoyer la parcelle afin de semer dans un champ propre. Et depuis que je suis passé dans ce système, j'ai diminué de 50% mes autres produits phytosanitaires.
Et les avantages écologiques du choix de cette politique sont nombreux pour l'agriculteur de 29 ans qui passe 80% de son temps en moins sur son tracteur.
En 2 ans, j'ai vu réapparaître des auxiliaires de culture. J'utilise beaucoup moins l'antimasque, quasiment plus du tout même. J'ai vu réapparaître des coccinelles, j'ai vu réapparaître des abeilles au moment de la floraison de mes couverts l'été.
Et le choix s'est révélé également pertinent sur le plan économique.
Mes tracteurs font moins d'heures, donc au lieu de les changer tous les 5 ans, je vais les changer tous les 10 ans. J'ai diminué la consommation d'une de 10 000 litres de fuel par an et en échange, j'utilise 60 kilos de glyphosate. Donc avant, ça me coûtait 7 000 euros de fuel par an et aujourd'hui, ça me coûte 700 euros de glyphosate. 10 fois moins.
Seuls 80 agriculteurs avaient choisi ce créneau. En 2016, plus de 400 membres de la coopérative préfèrent désormais le glyphosate au fuel du tracteur, aux pesticides et insecticides.
Merci Dimitri Ramelot. Je vous le disais en titre, le nombre d'actes antisémites est reparti très fortement à la hausse l'an dernier. On en a recensé 541, c'est 230 de plus qu'en 2017. On sortait de 2 années de baisse. Hier soir sur RTL, le délégué interministériel chargé de ces questions a fait le lien avec le mouvement des Gilets jaunes. Derniers incidents en date, à Sainte-Geneviève-des-Bois, un arbre planté à la mémoire d'Ilan Halimi a été coupé. Et puis à Paris, 2 portraits de Simone Veil ont été souillés d'une croix gammée.
Et on y reviendra sur RTL dans 3 quarts d'heure maintenant. Jean Veil, avocat et fils de Simone Veil, sera tout à l'heure l'invité d'Yves Calvi.
70 000 personnes sont au chômage partiel en raison du mouvement des Gilets jaunes. C'est 10 000 de plus en un mois. Information du quotidien L'Opinion ce matin. L'immense majorité, 93% des demandes adressées à l'administration sont le fait des PME, principalement des commerces.
L'affaire Benalla à présent et Mediapart enfonce le clou sur les accusations de mélange des genres contre l'ancien chargé de mission de l'Élysée.
Selon des informations publiées hier soir, Alexandre Benalla serait bien la cheville ouvrière d'un contrat avec un oligarque russe alors qu'il était en poste auprès du président de la République, Thomas Proutot.
En effet, le site estime désormais avoir la preuve de l'implication directe d'Alexandre Benalla. Ce serait bien le collaborateur d'Emmanuel Macron, alors en poste, qui aurait pris le premier contact avec la société de sécurité privée Velours. Lui encore qui aurait organisé le premier rendez-vous à 2 pas de l'Élysée entre les acteurs. Lui également qui aurait désigné son ami et comparse des manifs du 1er mai, Vincent Crasse, le gendarme réserviste, pour négocier officiellement et signer le marché. C'est lui enfin qui aurait désigné les 7 anciens militaires destinés à travailler avec la société Velours et l'oligarque russe. Alors à ce stade, rien n'indique qu'Alexandre Benalla ait touché directement de l'argent pour ce contrat, mais le mélange des genres entre poste à l'Élysée et business privé semble établi selon Mediapart. Le journal révèle par ailleurs qu'après son départ de l'Élysée, Alexandre Benalla aurait négocié un 2e contrat de sécurité avec un autre oligarque russe cet automne, cette fois-ci en empochant une confortable commission de plus de 350 000 euros.
Thomas Proutot, c'est l'un des plus proche conseiller d'Emmanuel Macron qui s'apprête à quitter l'Élysée, Ismaël Emelian, annonce sa démission officiellement pour retrouver sa liberté de parole à l'occasion de la sortie d'un livre au printemps, mais il était aussi fragilisé pour sa gestion de l'affaire Benalla.
Et on y reviendra à 6h50, pas une bonne nouvelle pour l'Élysée, nous dira Dominique Tenza.
24 heures après le mystère du convoyeur reste entier, le jeune homme a disparu avec 3 millions d'euros hier matin à Aubervilliers. Les enquêteurs sont convaincus qu'il n'a pas pu agir seul. L'argent se trouvait dans une soixantaine de sacs qui ont été déplacés en quelques minutes. L'homme s'était volatilisé au volant de son fourgon juste après avoir déposé deux de ses collègues dans une agence bancaire. Un accident très rare hier soir, une collision entre deux tramways a fait 12 blessés, dont un grave à Issy-les-Moulineaux près de Paris. Ça s'est passé vers 21h. La circulation du T2 est interrompue ce matin entre le parc de Saint-Cloud et la porte de Versailles. Pas de problème en revanche pour le reste de la ligne sur le tronçon qui dessert notamment le quartier d'affaires de la Défense. Les drapeaux français et européens pourraient être bientôt obligatoires dans les classes de l'école publique. L'Assemblée a adopté cette nuit un amendement des Républicains avec le soutien du ministre Jean-Michel Blanquer. Le texte prévoit aussi d'afficher les paroles de la Marseillaise dans les salles de classe.
Autre réforme, c'est celle du lycée. Elle provoque la colère des profs principaux. C'est dans un instant sur RTL.
RTL Matin avec Amandine Bégaud.
Bientôt 6h38 sur RTL, la suite du journal avec Jérôme Chapuis, direction Toulouse. 150 enseignants de l'Académie de Haute-Garonne refusent désormais la fonction de prof principal.
Ah oui, c'est le référent pour les élèves dans les collèges et les lycées. Son rôle va évoluer avec la réforme du bac puisqu'il faut désormais conseiller les élèves sur les spécialités qu'ils doivent choisir en fin de seconde. Ces femmes et ces hommes étaient volontaires, moyennant une prime d'environ 150 euros pour cette nouvelle fonction. Mais dans ce lycée de Toulouse, l'expérience tourne court, Patrick Tégéraud.
Sur le brassard de Myriam, on lit PP démissionnaire, non à la réforme Blanquer. Elle est PP, prof principale en seconde.
On ne remplit plus les appréciations sur les bulletins, on ne distribue plus les papiers, surtout on ne fait plus d'accompagnement personnalisé lié en fait à la réforme.
Une grève plutôt administrative, mais qui fait perdre l'indemnité de professeur principal, soit 120 à 160 euros par mois. Mais ça vaut le coup pour Jean qui enseigne les mathématiques, c'est pour le bien des élèves.
On a signé en début d'année pour aider les élèves à s'orienter. Et là, on apprend en cours d'année comment va fonctionner le système. Donc là, on a dit stop, nous, on ne veut pas participer à cette mascarade et désorienter les élèves, parce qu'après, dans 2 ans, si un élève, on l'a mal orienté, il viendra se retourner contre nous.
Fabien donne un exemple des aléas de la réforme.
On ne sait pas comment Sciences Po va sélectionner les élèves à travers Parcoursup avec des spécialités qui seront demandées, mais qu'on n'aura pas pu conseiller 2 ans avant, car on ne savait pas qu'il fallait les dire 2 ans avant.
Les professeurs principaux démissionnaires veulent que la réforme soit renvoyée d'un an pour mieux préparer les lycéens à leur avenir d'étudiant.
Patrick Tégéraud, le correspondant de RTL à Toulouse. Un procès historique s'ouvre aujourd'hui à Madrid. La Cour suprême espagnole va juger 12 dirigeants indépendantistes pour la tentative de sécession de la Catalogne il y a un an et demi. Un grand absent, Carles Puigdemont a trouvé refuge en Belgique. Son ancien bras droit risque, lui, 25 ans de prison. Aux États-Unis, un compromis en vue cette nuit sur la question de l'immigration qui a paralysé l'administration pendant un mois. Démocrates et républicains ont signé un accord de principe.
Le foot est l'heure de vérité pour le Paris Saint-Germain.
Les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions ce soir face à Manchester United à Old Trafford et un cas de conscience pour les habitants de Roissy-en-Brie, habituellement supporters du club de la capitale. Ils espèrent voir aussi briller Paul Pogba qui a grandi dans cette commune. L'IS est l'actuel entraîneur du club.
Le cœur balance, c'est très très difficile parce que voilà, vous avez un gamin, notre Paul, qui est quand même très très en forme. Je l'ai vu ici à son jeune âge, ça a toujours été impressionné comme joueur. Même en étant jeune, 13 ans, 14 ans, on est supporter de Paul Pogba quoi. Parce qu'il est de la ville, de notre club, qu'il a une histoire quand même assez riche. C'est vrai qu'on a envie de voir le PSG passer ce cap. Depuis tant d'années qu'ils essayent de passer ce cap des quarts de finale et qu'ils n'y arrivent pas. J'aimerais bien que le PSG passe quand même comme tous les ans, mais on a envie de le voir marquer, même si on supporte Paris.
Des propos recueillis par Morad Jabari.
Et Luis Fernandez, ancien joueur et ancien entraîneur du PSG, sera tout à l'heure aux côtés d'Yves Calvi. Ce sera à 8h20 Manchester United PSG, à suivre bien sûr en intégralité ce soir sur RTL. RTL soir de Ligue des Champions de 20h45 à 23h avec Big Chen, Télizarazou et tout le service des sports. Merci beaucoup Jérôme. On vous retrouve tout à l'heure.
À tout à l'heure.
À 8h.